Un moment pour la Terre, c'est tout de suite avec deux invités. Je rappelle que cette émission est préparée, toujours proposée par France Nature Environnement 04, FNE 04. Et aujourd'hui, donc, deux invités pour nous parler de du sujet des milieux aquatiques. Et donc, il y a pour la première fois dans notre local, j'en suis ravie, Vincent Duru, directeur de la Fédération de pêche du 04. Bonjour.
Bonjour.
On va faire plus ample connaissance d'ailleurs avec cette Fédération de la pêche. Ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe. Et puis, le président, donc, tout frais, tout neuf, de France Nature Environnement 04, FNE 04, Pierre Gottardi. Bonjour.
Bonjour.
Ravi donc de vous avoir tous les deux pour nous parler des milieux aquatiques. Alors pour commencer, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette fédération de pêche 04.
Alors une fédération de pêche, son nom complet, c'est Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, et on y tient. Nos objectifs, nos missions principales, c'est le développement du loisir pêche et c'est également la protection des milieux aquatiques, comme son nom l'indique. Ce qui veut dire que la fédération, elle a deux pôles principaux, un pôle technique ingénierie et un pôle développement de loisirs pêche. Donc l'objectif, c'est d'avoir et des pêcheurs et des milieux de bonne qualité. Voilà. Alors après, en nombre d'adhérents, ça représente environ 10 000 personnes, wow. 10 000 pêcheurs.
Dans le 04.
Dans le 04, sans compter tous les pêcheurs extérieurs qui viennent, puisqu'on a... On a, contrairement d'ailleurs à la chasse, un jeu de réciprocité qui permet aux pêcheurs extérieurs à d'autres départements de venir pêcher chez nous. Voilà.
D'accord, donc la pêche se porte bien.
La pêche se porte bien, elle s'est portée mieux il y a quelques décennies, mais elle se porte encore plutôt pas trop mal. Voilà.
Donc c'est important pour vous de nous parler des milieux aquatiques, j'imagine.
Oui, et d'ailleurs, si la pêche se porte bien, c'est parce qu'on peut avoir des milieux en bon état, et quand les milieux se dégradent, c'est là où la pêche se porte moins bien. Les deux vont ensemble. Voilà.
Alors, pour cette première partie, donc, on va voir... Bon, si vous voulez aussi parler de France Nature Environnement, Pierre Gottardi.
La Fédération de pêche fait partie de FNE 04. Voilà, ils adhèrent à FNE 04. Et on essaie de travailler de manière extrêmement... Enfin, de concert pour, avoir plus de poids par rapport aux décisions qui sont prises, enfin, se faire reconnaître au niveau... des décisions préfectorales, notamment en matière d'eau, en matière de protection des milieux, développement de manière générale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au détriment des espaces naturels et les cours d'eau payent leur tribut régulièrement.
Voilà. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des milieux aquatiques et les milieux humides ou les zones humides. Qu'est-ce qu'on appelle les zones humides, par exemple ?
Les zones humides, ça regroupe plein de choses, ça regroupe tout ce que peut être l'interface entre un cours d'eau et milieu terrestre, pour paraphraser mon collègue. C'est souvent les tourbières, les zones de marée, ça va être aussi des affleurements avec pas mal d'eau, ça va être aussi les adous dans le département. Les adous, c'est des petites sources qui viennent des nappes des cours d'eau. Qui rejaillissent en marge des cours d'eau et qui apportent de l'eau fraîche toute l'année, de l'eau oxygénée toute l'année avec un débit constant. Ce sont des zones refuges d'ailleurs pour pas mal d'espèces, à la fois de poissons et puis de petites bêtes qui vivent au fond d'eau, des insectes notamment. Voilà. Les zones humides, c'est un terme qui regroupe pas mal de choses et effectivement qui est souvent interface entre un cours d'eau et le milieu terrestre. Et qui a une importance capitale dans un département comme le nôtre, puisque ça permet, entre autres, d'alimenter les cours d'eau en période de sécheresse, notamment.
Alors on va en parler de ces périodes, puisqu'on court avec le réchauffement climatique, bien sûr. En ce moment, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un peu d'eau, mais ça ne suffit pas. Et on va voir donc l'impact des sécheresses maintenant sur les milieux aquatiques.
Oui, je reviens d'ailleurs sur la pluviométrie qu'on a depuis quelques jours, quelques semaines. Malgré tout, ça ne rattrape pas le retard qu'on a depuis plusieurs mois. Et sur le mois de mai, on n'est même pas encore à l'équilibre sur une moyenne d'un mois de mai. Donc ça paraît beaucoup, parce qu'on s'habitue à avoir des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, mais pour autant, ça ne correspond pas à la norme. On est toujours en dessous en termes de pluviométrie.
Il ne faut pas oublier que l'année 2022 a été largement déficitaire et que les pluies qu'on a aujourd'hui n'arrivent pas à rattraper le déficit. Du coup, la saison 2023 s'annonce un petit peu mieux que 2022. Mais bon, ce n'est pas encore une année normale comme on avait avant. Il faut en être bien conscient.
Le mois de mai sera le premier mois à l'équilibre en termes de pluviométrie sur l'année.
Le premier mois d'équilibre.
C'est-à-dire le premier mois, on aura l'eau qu'on attend pour un mois de mai normal. Mmh. Donc tout le reste, tous les autres mois, les quatre mois précédents ont été déficitaires, et largement déficitaires.
Mmh. Voilà. Donc la pluie qui vient maintenant, elle nourrit la végétation de surface, mais les nappes ont beaucoup de mal, les nappes qui sont donc de l'eau stockée dans le sol ont beaucoup de mal à remonter à un niveau satisfaisant. Les nappes qui sont suivies soit sur la Bléone, soit sur l'As, par exemple, montrent qu'en fait, elles sont toujours à des niveaux considérés comme très bas par les organismes qui suivent ces niveaux, quoi. Donc, on est loin d'être sorti de l'ornière. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
La danse de la pluie.
Oui. Bon.
Mais si on est tout seul, ça n'a pas marché. Il faut être nombreux.
Ouais.
Non, déjà, il faut économiser l'eau.
Oui, alors ça, c'est pas un réflexe que tout le monde a. Donc, faire attention, prendre des douches plutôt que des bains. Ça, je crois que maintenant,
Est-ce que ça se passe vraiment à ce niveau-là ?
Oui, c'est pas... C'est plus
bien sûr que chacun a son rôle à jouer. Chacun fera sa petite économie et la somme des économies sera toujours bonne à prendre. Mais par contre, il y a des grands usagers de l'eau.
C'est les industries, plutôt.
Ouais, ou l'agriculture aussi, sans vouloir les pointer du doigt, qui consomment 60-70% de l'eau dans la région PACA. Et puis forcément, une partie de l'eau est consommée au pire des moments, là où c'est le plus sec. Donc, bien sûr...
On a bien besoin quand même de l'agriculture pour faire pousser les choses. On a bien besoin d'eau.
Bien sûr, donc, mais il faut aussi une agriculture qui soit adaptée aussi à la région dans laquelle on vit. On n'est pas dans la bosse ici.
Ouais.
Alors, il faut qu'on accepte tous de manière collégiale de changer de système. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie des acteurs qui sont encore sur l'ancien système. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, voilà. Il faut savoir quand même que Serponçon, cette année, l'année passée, il ne s'est pas rempli. Il était très bas en début de saison. Il a baissé beaucoup. Et cette année, il va être rempli au minimum de la côte touristique, a priori, d'après les prévisions. Donc, on va pouvoir faire tourner le tourisme sur les Hautes-Alpes, etc. Mais... il faut qu'on accepte de changer de système. C'est-à-dire que si sur Serponçon, on peut faire des sports aquatiques, même s'il manque 10 mètres d'eau, pourquoi pas ? Il faut s'adapter. On ne pourra pas toujours compter sur la nature. Il faut savoir que le stock de glace qu'il y a dans le bassin versant amont de la Durance, l'ensemble, si on fait le fond de l'ensemble des glaciers, et si Serponçon est vide, on ne peut pas le remplir. Il n'y a pas assez d'eau disponible. Donc il y a un petit problème là. Jusqu'à maintenant, on a compté sur effectivement la nature, la glace qui fond, la neige. Mais ça commence à changer. Ça évolue beaucoup. Et ça a beaucoup d'impact sur les milieux aquatiques, pour revenir au sujet du jour. Parce qu'effectivement, on change les volumes d'eau, on change les températures, etc. quoi. Mais là, je laisse parler à mon collègue.
Oui, en termes de population, notamment piscicole, quand on parle de poissons, on a des cours d'eau qui sont, pendant le 0,4, qui sont répartis de l'étage alpin avec des cours d'eau à truite. Ensuite, on a des cours de moyenne montagne, on a ce qu'on appelle des poissons d'eau vive qui sont un petit peu normalement en altitude en dessous l'étage où on trouve la truite. Et puis après, on a la partie de plaine où on a les cours d'eau qui sont plutôt lents avec les espèces qu'on trouve classiquement en plaine. Et on se rend compte que ces étages-là, ils sont en train d'être modifiés. On retrouve au fur et à mesure des sécheresses et des grandes crues maintenant, puisqu'on a des épisodes de plus en plus marqués, des gros départs de poissons, des grosses lessives, entre guillemets, qui font que les poissons vont dévaler et puis qui vont pas forcément recoloniser correctement les cours d'eau parce qu'ils retrouvent pas forcément des conditions qui correspondent à leur optimum de vie, leur zone de confort, et on se retrouve comme ça avec des périodes de sécheresse où les linéaires sont de plus en plus linéaires secs sont de plus en plus importants d'année en année, et on voit des espèces qui disparaissent parce que ils peuvent pas recoloniser parce que une fois que tout est sec, il faut pouvoir recoloniser. Quand il y a des ouvrages transversaux, des barrages, des seuils qui barrent les cours d'eau, on n'a pas de recolonisation. Et puis quand on mélange ça les épisodes de sécheresse, avec les aménagements humains et avec le réchauffement climatique en cours, eh ben, on se retrouve avec des mouvements de population piscicole qui ont plutôt tendance ou à disparaître ou à monter en altitude pour retrouver un peu de fraîcheur là où elles avaient des conditions favorables plutôt en moyenne montagne, voire en plaine.
Oui, certaines espèces sont. Enfin, il faut imaginer que les espèces sont adaptées au régime hydrologique. C'est-à-dire que, comment dire, si les. Je pense à certains cyprinidés d'eau vive comme les barbeaux, le barbeau, il fraye au mois d'avril, mai. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque de la fonte des neiges. Donc il y avait beaucoup d'eau dans les cours d'eau. Comme c'est des poissons mobiles, eh bien, ils bougent pour frayer. Et aujourd'hui, si on n'a pas de neige, donc on n'a plus de fonte de printemps. Il faut attendre les pluies, et bien ces espèces-là sont perturbées dans leur cycle. Or, ils ne s'adaptent pas comme on s'adapte nous. On dit, ben nous, il fait chaud, on va en altitude, on bouge. Eux, ils n'ont pas de voiture pour les transporter là où il y a de l'eau, quoi. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à intégrer, c'est que ces espèces, comme disait tout à l'heure Vincent, les milieux aquatiques sont des milieux très contraints. Et moins il y a d'eau, plus ils sont contraints. Et donc les espèces, elles ne bougent pas comme ça, quoi. Quand on dit qu'il faut changer les forêts, par exemple, parce qu'il faut mettre des forêts, enfin des arbres qui résistent mieux à la chaleur, ben les arbres, ils ne viennent pas tout seuls. Hein. Donc, et là, c'est un vrai problème en matière de biodiversité, notamment aquatique.
Un exemple classique, c'est l'espèce phare dans le département, parce que c'était la plus représentée. C'est en train de changer, c'est la truite commune. La truite commune a besoin d'abord d'une température relativement fraîche pour se reproduire, mais aussi de coups d'eau. À l'automne pour pouvoir monter. Les coups d'eau, donc les petites crues qui commencent à faire bouger les poissons, à les faire monter pour frayer, donc pour se reproduire, et ben ces coups d'eau, ils arrivaient grosso modo fin août, début septembre, il y a une trentaine d'années. Maintenant, ces cours d'eau, quand ils sont assez importants, ils arrivent au mois de novembre. Donc les poissons, ils montent très tardivement sur les frayères et ils se reproduisent de plus en plus tard. D'autant plus que quand ils arrivent sur les frayères, la température n'est pas assez descendue pour déclencher la reproduction. Donc ça veut dire que ces poissons sont obligés d'attendre et se reproduisent tardivement. Il y a 30 ans, les truites se reproduisaient entre mi-octobre et mi-novembre. Maintenant, la reproduction commence mi-décembre et elle se termine fin janvier. Voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique des changements en cours. Le problème, c'est qu'un jour, on n'atteindra peut-être même plus la température minimale pour la reproduction de la truite et il n'y aura peut-être même plus de reproduction. C'est le risque qu'on encourt.
Donc c'est du concret, le changement climatique il est déjà là, et comment dire, donc Vincent et avec ses collègues ont fait une étude notamment sur les populations piscicoles, et dans ce cadre-là ils ont analysé les températures, on a pris déjà 2,5 degrés dans le bail par exemple, 2,5 degrés, alors que jusqu'à maintenant on nous bassinait avec le 1,5 degré qu'il ne fallait pas dépasser quoi. Puis aujourd'hui, M. Béchu nous sort 4 degrés comme si, ça veut dire qu'ils ont admis au niveau national qu'on avait dépassé l'hypothèse de 2, puisqu'ils travaillent sur le scénario 4. Et ça, c'est pas un choix que les citoyens ont fait. C'est un choix que fait le gouvernement de manière autoritaire. Mais ça veut dire qu'on a loupé l'échéance. Mais là, personne n'en parle qu'on a loupé l'échéance. On nous fixe un scénario à ne pas dépasser. Mais ça veut dire qu'on a déjà perdu la première bataille.
En pratique, on a quand même la Terre à sa température moyenne qui a augmenté depuis l'ère pré-industrielle de l'ordre de 1 degré. Sauf que l'Europe de l'Ouest est beaucoup plus touchée que d'autres zones, et encore plus les zones méditerranéennes de l'Europe de l'Ouest, là où effectivement on a une température de l'ordre de 1,1 degré augmentée en 120-130 ans. Nous, en l'espace de 40 ans, on a effectivement augmenté de plus de 2 degrés, et un peu plus de 2 degrés et demi au total. Et ces 4 degrés, la région PACA l'atteindra assez rapidement, beaucoup plus rapidement que le nord de la France ou que l'Europe de l'Est. C'est vraiment le pourtour méditerranéen, ce sera le plus fragile et le plus impacté par ce réchauffement. Et ça, on n'en a pas encore pris conscience, mais on commence à avoir quand même quelques températures estivales qui commencent à grimper et qui commencent à durer, des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. Le réchauffement climatique, c'est plus une hypothèse, c'est plus une possibilité, c'est pas ce qui va arriver dans 20 ans, c'est ce qui arrive depuis 40 ans. Et maintenant, les changements sont extrêmement bien perceptibles, y compris dans les pêches d'inventaire. On fait des pêches d'inventaire à la Fédération, comme le disait Pierre, et ces pêches d'inventaire nous montrent effectivement, que les populations piscicoles, elles ont changé, qu'il y a des espèces qui ont disparu, qui sont montées en tête de bassin, donc en montagne, et les poissons de plaine qui sont montés, eux, en moyenne montagne, et les poissons de plaine ne sont pas remplacés, eux, par contre, parce qu'il y a un gros verrou en fermeture de bassin de la Durance sur le département, c'est Cadarache. Et voilà, donc ces 4 degrés, on les atteint très rapidement, et les peuplements piscicoles seront perturbés assez rapidement à l'échelle de 20-30 ans. Ils le sont déjà largement, et ils le seront encore plus en 20-30 ans. Même si, et je le répète souvent, ou en conférence, ou en réunion, auprès des élus locaux, on a encore des moyens d'essayer de contrecarrer tout ça. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas être pessimiste. Il y a des moyens, des leviers d'action, mais par contre, ces leviers d'action, il faut les actionner.
Oui, c'est qu'il faut travailler sur le... Il faut intégrer le changement climatique dans nos pratiques, mais ça veut dire qu'il faut se reposer la question de notre modèle. Quand je dis modèle, notre modèle de vie. Et l'eau, il faut l'économiser au maximum. Et tout à l'heure, on a parlé, mais chaque geste compte. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper de cible non plus. C'est quand on sait que l'agriculture consomme 70% de l'eau dans le département, ben effectivement, s'ils font une économie de 10%, ça fait 7% sur la consommation globale. Et si la consommation d'eau potable, c'est 20%, et que tout le monde fait un peu des économies, font 10% d'économies, on n'économise que 2%. Hein, c'est comme les gaz à effet de serre. C'est les plus riches qui en balancent le plus. S'ils faisaient un petit peu des économies, ça serait mieux que de demander à chacun d'économiser peut-être son brûleur de gaz ou quelque chose comme ça. Donc sur l'eau, c'est très, très important. Et chaque goutte compte. Donc chacun peut faire un petit effort. Mais moi, je comprends les gens qui disent « Mais pourquoi comment il y a tout ça qui est fait sans économie ?» Si on compare deux systèmes, par exemple, le système de la moyenne durance, on a des groupements d'agriculteurs qui ont des associations syndicales d'irrigation. Il y en a qui ont fait des efforts, qui sont passés à l'arrosage par aspersion. Par l'aspersion, par rapport à l'arrosage gravitaire traditionnel, on a une différence de 50% de consommation. Bon, ben, ceux qui ont fait les efforts, à la limite, on devrait peut-être leur dire, ben, vous faites un petit peu moins d'économie que ceux qui n'ont pas fait d'efforts. Quand on sait que la base durance, à partir de Cadarache, tous les canaux qui irriguent, soit les Bouches-du-Rhône, soit le Vaucluse, ce sont des canaux qui transportent des volumes d'eau gigantesques, y compris jusque dans la Croix. Ces gens-là, s'ils font 1% ou 2% d'économie, ça représente plus que les économies qu'on peut faire dans le département 04. Donc les gens disent pourquoi eux, pourquoi pas eux et moi, voilà. Il faut pas non plus opposer les gens, c'est-à-dire que on pourra pas sortir de la crise si chacun raisonne face à sa petite boutique, quoi. Il faut que tout le monde fasse un effort. Si il faut qu'effectivement les agriculteurs ils changent de système, mais c'est pas les agriculteurs tout seuls qui pourront s'en sortir. C'est bien la société tout en son ensemble qui dit on change de système et on y met tous s'il faut la main à la poche, mais on le fait. Mais on fait tous ensemble, et on fait comme il faut. Parce que les milieux humides, ou les milieux aquatiques, c'est quand même la vie. Et c'est de là d'où on vient. Il ne faut pas oublier quand même que la vie sur Terre, elle vient de l'eau. Voilà. Et c'est quand même un tout petit peu dommage que, on n'arrive pas aujourd'hui à faire comprendre ce discours-là, et que ce discours-là soit parlé de manière globale. Alors ça se fait à des échelles locales, il y a réflexions qui sont très intéressantes dans certains bassins versants ou autres, mais on sent qu'il y a un paramètre psychologique, on n'arrive pas à aller au-delà, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que ça veut dire que tant qu'on n'agit pas, on continue sur la trajectoire qu'on a eue jusqu'à maintenant.
Et puis il y a une guerre aussi de communication. On ne sait pas communiquer sur l'impact de la sécheresse. Je pense que c'est une réflexion qu'on commence à avoir au niveau de la préfecture, du département. On a fait les premières assises de l'eau l'an dernier, au mois de novembre. Enfin, on a fait des assises de l'eau pour se dire entre nous, c'est-à-dire usagers de l'eau, acteurs de l'eau, collectivités territoriales, locales, qu'on avait un gros déficit en eau. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le département, ça fait 15 ans que je vois des épisodes de sécheresse, le 4e ou le 5e que je vis depuis 15 ans, depuis que je suis ici. Alors moi, je suis charentais d'origine, donc chez moi, il y a de l'eau... Enfin, il y avait de l'eau à foison, mais même là, ça commence aussi à se raréfier. Et quand je suis arrivé ici, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que les gens ici, pour eux, l'eau, c'est d'abord une ressource. On en parlait tout à l'heure avec Pierre, et ça m'a choqué parce que en Charente, on est traversé par le fleuve Charente, la colonne vertébrale où il y a aussi des activités nautiques, il y a des poissons, il y a une biodiversité. Et quand on arrive ici, le premier mot quand on parle d'eau qui vient à la bouche, c'est ressources. Et il faut se partager le gâteau. Et le problème, c'est qu'en période estivale, quand on est en pleine sécheresse, les gens ne comprennent pas que le gâteau, il y en a qui le prennent plus que d'autres. Alors que chacun devrait dire, on laisse notre part au milieu. parce que c'est quand même ces milieux-là qui rendent des services, d'ailleurs, ce qu'on appelle les services écosystémiques, aux écosystèmes, mais qui sont aussi des services qui sont rendus aux sociétés humaines, que ce soit pour l'eau potable. Un milieu qui fonctionne bien, c'est un milieu qui va s'auto-épurer naturellement. Il n'y aura pas besoin de balancer beaucoup d'argent pour avoir une autre qualité au robinet. Et ça aussi, il faut le comprendre. Et plus il y a d'eau, plus il y a de dilution, et mieux c'est pour l'eau potable. Et il y a pas mal de choses comme ça qui font que ces services écosystémiques, qui sont extrêmement importants, commencent à en prendre conscience, mais pas encore suffisamment. Et c'est vrai que chacun a pour l'instant la tendance à vouloir tirer la couverture à soi. Ma piscine, mon champ, mon canal d'arrosage, mon activité nautique. Et ça, c'est un peu compliqué. Le jour où on arrivera à tous se dire, bah, faut que tout ce qu'on se limite, on sera un peu meilleur.
Vincent Duru, merci. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve pour parler donc de l'impact des sécheresses et du réchauffement climatique et ensuite les conséquences. On écoute donc ceci. Retour donc dans un moment pour la Terre sur Fréquence Mistral avec France Nature Environnement. Donc deux personnes, Vincent Duru, directeur de la Fédération de pêche du 04, et Pierre Gotardi, président du FNE 04. On va revenir sur les conséquences ou l'impact des sécheresses donc, sur le milieu aquatique.
Ouais, un premier impact que moi je vois au quotidien en période estivale, quand je venais à faire du terrain avec mes collègues, c'est la disparition locale d'espèces. Alors, ça peut arriver qu'une espèce disparaisse très localement, mais le problème c'est que quand c'est localement se multiplie comme des petits pains à droite à gauche, là je pense notamment aux populations d'espèces d'intérêt patrimonial comme les écrevisses à pattes blanches, le barbeau méridional, où on avait fait un inventaire il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans en arrière, sur le bassin du Largue, et on s'était retrouvé à chercher le barbeau méridional sur l'ensemble du bassin du Largue et du Lauzon d'ailleurs. Et on avait constaté, c'était au mois de juillet, que beaucoup de cours d'eau, et notamment d'affluents du Largue, commençaient à franchement sécher. Et on avait des petits bouts de population qui étaient complètement isolés et pour lesquels il manquait plus qu'un coup de grâce pour complètement s'assécher. Et puis on voyait les populations disparaître. Ça nous a fait prendre conscience ce jour-là, enfin cette époque-là, pendant cette étude, que ces populations piscicoles, elles étaient extrêmement fragiles. D'autant que souvent, ces populations d'espèces patrimoniales sont souvent en tête de bassin, isolées, dans leur coin, parce qu'il n'y a plus que là qui retrouvent des conditions de vie satisfaisantes. Et quand même ces têtes de bassin s'assèchent, on se retrouve, comme on a vu une fois, une cinquantaine de barbeaux méridionaux bloqués dans une petite cuvette, dans un trou d'eau qui est alimenté... en sous-écoulement, ça veut dire par les infiltrations, et il y avait une crépine dans le trou en question. Une crépine, c'est un outil de prélèvement d'eau qui est branché sur une motopompe, et il y avait de l'eau qui partait dans le champ d'à côté. Voilà, et on savait très bien que cette population était condamnée parce que le trou il faisait, je sais pas moi, 50 mètres par 30 mètres, et ben il était en train de vidanger pour pouvoir arroser le champ d'à côté, alors qu'on avait sur le bassin versant complet de ce petit ruisseau cette petite population dont on savait très bien qu'elle allait disparaître. À très court terme, quoi. Et ça, c'est vraiment des choses vraiment très concrètes qu'on voit régulièrement. L'an dernier, pareil, les adous qui ont séché, les adous, je vous rappelais, hein, c'est des petites sources, là, des cours d'eau principaux, ces petites sources qui font quelques dizaines à quelques centaines de mètres de long, ont souvent des populations d'écrevisses à pattes blanches, qui est, pareil, une espèce qui est déjà menacée par pas mal de choses. Notamment la sécheresse, les espèces envahissantes d'écrevisses qui lui font concurrence. Bon, il y a pas mal de problèmes autour de cette espèce qui est extrêmement fragile, qui est très impactée par la qualité de l'eau. Et l'an dernier, les adous qui ne sèchent jamais, ils ont séché. Et on s'est retrouvés sur des petits ruisseaux où les populations ont complètement disparu. Et on ne retrouvera pas ces populations avant très longtemps si on ne fait pas d'efforts pour essayer de les retrouver un jour. Ça, c'est un vrai problème. Et on le voit, ça se multiplie un peu partout dans le département, aussi bien en moyenne montagne qu'en plaine. Pour l'instant, on a les zones de montagne intra-alpines qui sont encore sauvegardées par ça, mais avant, ça avait commencé par la plaine, maintenant, ça attaque la moyenne montagne. Un jour, ça arrivera probablement en montagne, pas arrivé.
Oui, parce que les épisodes de sécheresse se traduisent effectivement par une raréfaction de l'eau, et donc, qui dit cours d'eau avec moins d'eau, dit cours d'eau en assec par endroit, et donc ça fait des barrages naturels et les poissons se retrouvent piégés. Donc si effectivement la fédération de pêche passe, fait des pêches de sauvetage et enlève les poissons pour les mettre dans un endroit plus accueillant, les poissons sont en partie sauvés, parce qu'on n'arrive pas forcément toujours à tous les attraper, mais ceux-là au moins sont sauvés, mais on n'a pas la capacité à inspecter tous les cours d'eau et tous les recoins du département. Et on est un département qui est colonisé de partout par les exploitants agricoles, par des gens qui vivent. Il faut bien que les gens vivent dans le département. On a beaucoup de petites communes isolées. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où les cours d'eau, même les plus reculés, font l'objet de prélèvements, parce que dans certains cas, une petite exploitation agricole avec un troupeau de moutons, si on n'a pas de... Si à un hectare ou deux hectares de luzerne, par exemple, ça permet d'avoir du fourrage pour l'hiver, pour le troupeau. Donc c'est difficile de critiquer ce type d'agriculture, mais en même temps, c'est une agriculture presque de survie. pris hein, aujourd'hui dans nos départements. Mais c'est là où comment c'est important de pouvoir discuter avec les gens et de pouvoir éventuellement faire évoluer les pratiques. Dire, ben, on parle toujours des bassines. Moi, les bassines, je ne suis pas contre, mais je ne sais pas ce que les gens vont mettre dedans bientôt. Mais bon, ça, c'est un problème. Mais dans certains cas, effectivement, créer une retenue collinaire, c'est-à-dire quelque chose qui prend l'eau de pluie et non pas l'eau d'un cours d'eau, ça peut être une solution qui permet de sauver une exploitation agricole. Mais ça, après, il faut des sous. Donc, qui c'est qui paye, etc. Et ça permettrait, dans certains cas, de préserver certains petits cours d'eau qui sont des refuges. Voilà.
Et surtout, c'est comme... pour quelle durée et,
oui, voilà, en plus. Mais sur, les, c'est, les, comment, les, c'est pareil pour les ados. Les ados, comme l'a dit Vincent, c'est, des, c'est un peu une particularité des rivières qu'on a dans le département, mais qui, enfin, dans toutes les rivières alpines à fort charriage, où on a effectivement de l'eau qui s'infiltre et qui ressurgit dans le lit un petit peu à l'écart du cours d'eau lui-même. Et c'est de l'eau qui est à température quasiment constante, avec des débits relativement constants. Et ça, c'est idéal pour, le, pour les espèces aquatiques qui sont fragiles, quoi. Et c'est vrai que bon, quand on voit des crépines qui sont au milieu de, d'un adou et, alors qu'elles ne devraient pas y être, parce que des fois, on a des prélèvements autorisés, des fois, des prélèvements pas autorisés. Voilà. Et ça pose la question du partage de l'eau. Et le partage de l'eau, si on n'est pas capable de se mettre tout sur tout d'une table et de le faire correctement, en respectant la réglementation qui prévoit quand même que les milieux aquatiques, ils viennent avant les activités humaines. Il y a le seul item qui est avant, c'est l'eau potable, l'eau sanitaire, l'eau pour la sécurité civile. Voilà. Après, c'est les milieux.
Ce que notre ministre n'a pas très bien compris, d'ailleurs, au passage. Le ministre de l'écologie qui nous répète à tout bout de champ que c'est d'abord l'eau potable et l'agriculture. Mais l'agriculture est un usage comme un autre.
Non, ça c'est Fenot, ça c'est l'agriculteur qui dit ça.
Les deux, ils le disent, les deux. Béchu, il l'a dit à Ries, j'en souviens.
Oui, oui, mais il a changé depuis. Il a relu le texte. Non, mais voilà, et du coup, c'est vrai que là... Un événement, ça pose la question du partage de l'eau de manière extrêmement dure. Voilà. Après, le changement climatique, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, il y a des tendances qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender pour le commun des mortels. Par exemple, on a partout, on a des aquifères souterrains, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui se stocke dans les sols, en plus ou moins grande quantité, mais il y a toujours de l'eau dans les sols. Le sol, c'est le meilleur réservoir au monde qui puisse exister pour stocker l'eau. Partout.
Mais voilà. Même la nappe phréatique est...
Oui, mais la nappe phréatique, ça fait partie de ces, oui. De ces stocks.
C'est... Mais elle s'assèche aussi.
Ah, mais si on pompe dedans, il y a un moment... Ouais. Non, mais si vous voulez, l'eau elle ne s'invente pas. Mm. L'eau, c'est la pluie. Donc, quand il ne pleut pas, les nappes, elles ne sont pas alimentées. Mm. Alors, si on pompe dedans, effectivement, on fait baisser les niveaux. Et là, on a quelques soucis dans le département. Mais ce que je voulais dire, c'est que naturellement, quand il pleut, le régime des pluies se modifie. Quand on a moins de neige, la neige, quand elle fond, elle a tendance à imprégner le sol sur place. Donc déjà, on fait une recharge naturelle. Si, effectivement, on a des pluies brutales et qu'on n'a pas de neige, l'eau elle ruisselle, elle s'en va. Donc elle pénètre beaucoup moins dans les sols et donc on a beaucoup moins de recharge. Et comment dire, on l'a constaté, enfin moi je l'ai constaté dans le département, les montagnes, quelque part, avec moins de pluie, elles s'assèchent. C'est-à-dire qu'on a moins de sources en montagne qu'avant. Et donc, du coup, ces petits aquifères qui servaient de refuge pour les populations, notamment des d'écrevisses à pattes blanches, elles s'assèchent petit à petit. Donc, non seulement en bas, les écrevisses, ils ont des soucis pour se déplacer, mais en haut, il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est insidieux parce qu'on voit baisser le niveau d'une source, on s'habitue, puis d'ailleurs, cette année, elle est sèche. Voilà. Et en fait, ça traduit quand même une diminution de la ressource de manière globale dans nos départements. Et ça, c'est insidieux et on n'en a pas forcément toujours la traduction directe parce qu'on a l'eau potable qui coule, on a les canaux qu'on prend, ils prennent l'eau dans la rivière, on a l'eau qui coule. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, quoi.
D'autant qu'en montagne, il y a d'abord la quantité de neige qui peut tomber pendant l'hiver. Et puis ensuite, il y a la période de fonte. Et la période de fonte, il faut qu'elle soit la plus longue possible. Plus elle est longue, et plus ça a le temps de s'infiltrer, plus ça a le temps de recharger les nappes. Le problème, c'est que très souvent, maintenant, depuis quelques années, on a un printemps qui se réchauffe tout d'un coup, avec un épisode pluviométrique qui va faire fondre la neige à vitesse grand V. Et cette neige, elle va fondre en très très peu de temps et partir, être évacuée trop rapidement, et ce qui ne permettra pas aux nappes de se recharger. Donc au bout du compte, ces changements météo qui traduisent un changement climatique, parce que quand certains parlent que de météo en disant que le climat c'est pas si perceptible que ça, si ça l'est complètement, ces changements météo sur du très long terme, c'est du climat, et on se rend bien compte que ce climat il induit assez régulièrement des épisodes de fonte nivale de plus en plus rapides et de la recharge beaucoup moins efficace des nappes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après avec un été qui peut être vite très sec pour beaucoup, beaucoup de cours d'eau. Parce que aussi, cette période de fonte nivale, elle devient de plus en plus courte.
C'est très net sur le, quand on analyse les débits comment, qui sont dans les cours d'eau du département. Parce qu'il y a un paramètre qui est difficile de percevoir, c'est la température. Quand on monte en température, donc là 2 degrés, on a une évapotranspiration, une évaporation de l'eau beaucoup plus importante. Parce que c'est une fonction exponentielle, donc ça va très vite. Et du coup, même si globalement les précipitations changent peu, on a moins de neige. Donc en fait, à l'automne, quand on avait de la neige, donc une constitution d'un stock neigeux sur les montagnes, on a quand même de l'eau. Donc cette eau, elle descend, elle ne reste pas. Et comment dire, on a des pics de fonte, ça se voit très bien quand on analyse des débits, que ce soit sur le Haut-Verdon ou sur l'Ubaye ou la Haute-Durance, à l'entrée de Serre-Ponçon, on voit très bien. Donc on a des pics de fonte au mois de mars, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous avez la neige qui fond au mois de mars, eh ben, on ne l'a pas pour la fonte estivale, quoi. Et donc EDF qui gère par exemple le barrage de Serre-Ponçon, lui il gère à la fois les crues, donc puisque le barrage Saint-Ponçon il a une certaine action sur la gestion des crues, et à la fois il essaye de remplir le barrage pour l'été. Et ben il faut, quand l'eau arrive trop tôt, il sait pas la conserver pour l'été, c'est trop tôt. Parce que s'il a une crue au mois de juin ou au mois de mai, comme c'est arrivé une année, eh ben il faut que le barrage il puisse amortir un petit peu, si vous voulez. Et donc tout ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Les précipitations ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, le régime hydrologique n'est pas le même. Et ça se traduit directement au niveau de l'état des cours d'eau et donc des espèces qui y vivent, si vous voulez. C'est très simple. Et il y a une partie qui est assez insidieuse, justement. C'est qu'il y a des choses qu'on... Il tombe de la neige. Mais bon, à Digne, par exemple, moi, quand je suis arrivé ici, il y a 30 ans, on avait la neige à Digne pendant un certain temps. On avait moins 15, moins 20 pendant 3 ou 4 semaines. Alors aujourd'hui, c'est fini. La neige, cette année, il n'a même pas eu le sommet du couar. Hein? Donc, la neige est remontée de pratiquement 1000 mètres sur le département. Enfin, j'exagère à peine, hein, mais voilà. Il y a qu'à voir, les stations de basse altitude, elles ont toutes les peines du monde à faire la neige de culture. Hein. Donc sur Montclar, par exemple, la période de froid intense qui permettait de faire la neige, il y a quelques années, c'était, enfin, il y a mettons 20 ans, c'était 3 semaines. Là, il y a 10 ans, c'était moins d'une, c'était d'ordre de la semaine. Aujourd'hui, ils ciblent 3 jours. Donc bientôt, il n'y aura plus assez de froid à faire de la neige si ça continue.
Mmh. On en parlait il y a quelques jours avec Pierre, mais les cours d'eau sont définis par leur régime hydrologique. Donc, qui sont alimentés par trois types de ressources, la pluie, la neige, la fonte de glace. On a pas mal de cours d'eau du département qui étaient des cours d'eau à régime nival, au niveau pluvial, pluvio-nival, c'est-à-dire mélange de pluie et de neige. Le problème, c'est que maintenant, ces cours d'eau sont en train de devenir des cours d'eau à régime exclusivement pluvial. Ça veut dire que la neige n'alimente quasiment plus ces cours d'eau. Et ça a quoi comme conséquence sur des milieux méditerranéens? Eh bien, quand on a un milieu méditerranéen influence montagnarde, comme c'était le cas jusque-là, on avait malgré tout des débits d'étiage, donc des débits bas d'été, qui correspondaient quand même à un débit minimal suffisamment important. On va de plus en plus vers des cours d'eau qui vont fonctionner comme des ouèdes. Ça veut dire avec des périodes d'écoulement et des périodes où il y aura des linéaires à sec. Et ces linéaires vont augmenter au fur et à mesure. On va certainement avoir un climat et une hydrologie qui va correspondre à ce qui se passe, ce qui se passait il y a 20-30 ans sur les ouèdes marocains ou algériens ou tunisiens, je connais.
Tout à
voilà.
Fait.
Et ça, faut aussi s'y préparer. Alors les têtes de bassin Ubaye et Haut-Verdon seront peut-être encore préservées, mais il faut s'attendre à un fonctionnement type oued d'ici quelques décennies, oui.
Donc aujourd'hui, c'est la grosse alarme. alerte pour tous.
Et d'un autre côté, on sait qu'on peut gérer les débits réservés, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui sont équipés où il y a ce qu'on appelle un débit réservé, c'est un débit qu'on laisse au cours d'eau, alors que le reste de l'eau est utilisé pour les usages humains. On sait qu'on peut agir là-dessus, on sait qu'on peut aussi agir sur les types de cultures, sur les pratiques, on sait qu'on peut agir aussi sur l'urbanisation du département, même si on n'est pas le département le plus urbanisé de la région. Mais par contre, notre eau, elle part aussi dans le sud de la région, qui, elle, s'urbanise toujours. D'ailleurs, on peut féliciter la communauté de communes du pays de Fayence qui a bloqué les permis de construire parce qu'il n'y a pas d'eau. Mmh. Et c'est très courageux. C'est pour l'instant les premiers à le faire, à ma connaissance. Et ça montre bien que ça y est, il y a aussi cette prise de conscience. On se dit, on aura peut-être plus d'eau pour tout le monde. Mmh. Alors en ce moment, c'est vrai que la polémique, elle tourne autour des remplissages des piscines. Et c'est normal parce que les piscines prennent beaucoup de flotte. Mais
quand même par rapport à des,
mais voilà,
des usines ou des...
Enfin, je ne vais pas me faire l'avocat des industriels, ils se débrouillent très bien tout seuls. Mais enfin, il faut quand même savoir que, pardon, depuis quand même pas mal de temps, pardon, les industriels, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Moi, je pense à Arkema, par exemple, ce qu'ils consomment aujourd'hui par rapport à ce qu'ils consommaient il y a 20 ans, mais c'est le jour et la nuit, quoi.
Ah oui.
Parce que, d'abord, parce que ça leur coûte moins cher, et puis d'autre part, ça permet, dans certains cas, c'est des choses qui sont faites au niveau des filières, au niveau national, si vous voulez. Donc, les industriels sont malins parce qu'ils essayent de consommer de moins en moins d'eau parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes de redevances à l'agence de l'eau. Parce que s'ils payaient des redevances à l'agent de l'eau, ils pourraient bénéficier d'aide. Donc ils préfèrent ne pas demander d'aide et ne pas cotiser. Donc ils consomment au niveau national, je crois que l'industrie c'est 10 ou 15%. Donc c'est vraiment extrêmement limité. Alors que l'agriculture c'est 70% et le reste c'est l'eau potable si vous voulez.
Je pense par exemple aux centrales nucléaires qui consomment énormément d'eau pour refroidir les réacteurs.
Alors ça c'est un problème, l'eau nucléaire j'en parle pas. Mais effectivement l'industrie nucléaire c'est un gros problème. C'est un double problème, c'est qu'effectivement il faut beaucoup d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Mais il faut aussi, qu'elles soient froides. Donc aujourd'hui, avec le réchauffement, il faut savoir que le Rhône, en 30 ans, il est monté de 4 degrés, l'eau du Rhône, alors qu'elle sort du lac de Genève. Et à Genève, c'est les glaciers qui l'alimentent. Hein, donc elle n'est pas très chaude quand elle sort du lac de Genève. Donc c'est quand même essentiellement chez nous qu'elle est réchauffée. Et bon, mais effectivement, quand on dit que le gouvernement relance le programme nucléaire, on ne sait pas avec quoi on va refroidir les centrales.
C'est plutôt affolant, je dirais.
Voilà. Oui.
Le mot de la fin, les conclusions, il n'y a pas de conclusion positive.
Il ne faut pas voir les choses. Alors c'est vrai qu'on a dressé un tableau un petit peu noir hein, pour se le cacher. Mais moi je le répète encore une fois assez régulièrement, des leviers d'action, il y en a beaucoup. On se rend compte que il y a un manque de volonté politique, il y a un manque de volonté économique, mais que si on voulait, on aurait déjà certainement plus d'eau dans les milieux si on savait l'économiser. Les économies d'eau, c'est l'affaire de tous, même si certains sont plus concernés que d'autres, parce qu'ils consomment plus d'eau. Et puis, il y a aussi le volet réglementaire qu'on ne peut pas négliger, qui peut aider aussi à réguler un petit peu tout ça. On a une région qui est hyper structurée, alors là, pour le coup, je parle que de la région PACA, mais qui est hyper structurée en grands ouvrages qui prélèvent de l'eau et qui détournent de l'eau. Je pense que ces ouvrages, on peut les optimiser et surtout optimiser leur gestion pour en prélever le moins possible. Là où on est censé faire les économies d'eau, moi je regrette qu'il y ait des projets qui sortent, notamment, on peut en parler, sur le plateau de Valensole, pour prélever de l'eau dans le lac de Sainte-Croix. Bon, on a bien vu que prélever dans Sainte-Croix comme l'an dernier, ça peut être vite compliqué quand le plan d'eau il s'abaisse énormément. Mais il y a un certain nombre de leviers qui permettront vraiment de compenser tout ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a fait plein d'aménagements sur le XXe siècle, qu'on est capable maintenant, entre guillemets, de décompenser et qui pourront permettre d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Moi je suis assez persuadé que si on fait les efforts drastiques et on se tire tous vers les hauts, on peut voir la situation ne pas forcément s'aggraver parce qu'on aura su compenser en redonnant un petit peu à la nature ce que l'humain lui a pris pendant plus d'un siècle. Voilà. Là, de ce côté-là, il faut être optimiste et je pense sincèrement que si on s'y met vraiment, on peut tamponner et limiter la casse.
Je partage ce point de vue. Je pense qu'il faut effectivement, il faut se mettre tous autour. Moi, je prône la discussion et je crois en l'intelligence humaine, à condition qu'on se mette en groupe et qu'on réfléchisse de manière concertée. Il y a des choses qui marchent. Après, il faut vouloir enclencher l'évolution, quoi. Mais on pourra, si on s'en sort, si on reste chacun sur son compte à soi, on s'en sortira pas. Donc il n'y a que le collégial et le concerté qui peut marcher, quoi, avec éventuellement un peu de réglementaire. Mais je pense qu'au départ, il faut partir de la base et discuter.
Vincent Durue et Pierre Gotardi, donc merci pour votre intervention dans ce Un moment pour la Terre. Et puis on va essayer de rester positif en espérant que chacun y mette du sien.
Pas de souci.
Bonne journée et à bientôt.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.